Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Tchad après la décision des autorités d'accepter qu'une mission internationale soit déployée pour faire la lumière sur les violences du 20 octobre. Des violences qui ont fait, je vous le rappelle, selon le gouvernement, plus de 50 morts et 300 blessés. De son côté, le comité onusien contre la torture dresse un bilan bien plus lourd, entre 50 et 150 morts, plus de 150 disparus et 1400 arrestations. Alors une mission d'enquête internationale, pourquoi faire? Que vous inspire cette décision prise par les autorités tchadiennes? Cette enquête permettra-t-elle d'établir les faits et les responsabilités? RFI vous donne la parole évidemment ce matin. Vos analyses, vos commentaires nous intéressent. Vous nous rejoignez au standard 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours, on vous attend également sur nos réseaux sociaux, le compte WhatsApp et le compte Facebook d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec une question qui fait la une des journaux au Sénégal. L'arrestation du journaliste sénégalais Papa Lé Niang. Bonjour Fally.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de nous appeler de Ziguinchor au Sénégal. Quelles sont vos questions?
Le journaliste Papa Lé Niang a été arrêté ce dimanche après avoir diffusé un document classé confidentiel. Et je voudrais savoir que contient ce document et en quoi Papa Lé n'avait pas le droit de le diffuser.
Ah, c'est une bonne question que vous posez effectivement, Nfali. Bonjour Charlotte Hidrak.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, Papa Lé Niang a fait l'objet hier d'un retour de parquet. Selon l'un de ses avocats, il a passé la nuit au commissariat central et le dossier est donc entre les mains du procureur. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, Charlotte Hidrak?
Écoutez, il y a plusieurs motifs invoqués, hein, selon sa défense, selon aussi des associations qui se sont mobilisées pour le soutenir. D'abord, il y a la divulgation de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale. Selon la CAP, la coordination des associations de presse, il s'agirait notamment d'un message radio de la police qui appelait à la mobilisation générale avant l'audition de l'opposant Ousmane Sonko devant la justice. C'était jeudi dernier. Il s'agirait aussi, selon la CAP toujours, de la diffusion d'un document concernant cette fois les sapeurs-pompiers. Et puis, selon cette coordination, Papa Lé Niang est également accusé d'appel à la subversion, de recel et diffusion de documents administratifs estampillés secrets et propagation de fausses nouvelles. Alors, Papa Lé Niang, notre auditeur le sait sans doute, hein, c'est un journaliste connu pour ses positions critiques du pouvoir. Et dans ses récents posts hein, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Dakar Matin, il avait notamment commenté les préparatifs sécuritaires avant la convocation d'Ousmane Sonko. Il avait aussi consacré une émission à cette audition. C'était la première audition hein, de l'opposant qui est visé par une plainte pour viol depuis l'an dernier, on le rappelle, et c'est une affaire qui reste très sensible.
Alors expliquez-nous, Charlotte Hidrak, pourquoi Papa Lé Niang n'avait pas le droit de diffuser ces documents dont vous parliez à l'instant?
Alors, j'ai pas vraiment d'explication à ce stade. Justement, c'est une partie du débat de ces derniers jours. La liberté d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. C'est ce que dit la coordination des associations de presse. Comme tout journaliste d'investigation, Papa Lé Niang, il peut, en théorie, avoir eu accès à des documents en principe confidentiels, mais qui peuvent être d'intérêt public. Hein. C'est tout le sens du journalisme d'investigation. Pour ce qui est du message radio de la police nationale qu'on évoquait par exemple, ce message avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Donc la question c'est est-ce que ça relève effectivement de la divulgation de secret défense. Et puis au-delà de ces documents, le procureur a publié un communiqué lundi soir. Il n'a pas cité explicitement le nom de Papa Lé Niang, mais il indique avoir constaté des attaques répétées, non fondées et inacceptables dirigées contre les forces de défense et de sécurité sécurité, des actes qui sapent le moral des troupes, je cite, et qui sont susceptibles de caractériser des atteintes à la défense nationale. Donc voilà pour les accusations, mais selon l'un des avocats de Papa Lénian, maître Cyril Clédorli, que j'ai eu au téléphone, il y aurait tout simplement une volonté de faire taire, hein, je cite le journaliste.
Oui, en tout cas, je le disais en préambule, Charlotte Hydrac, cette arrestation provoque une levée de boucliers au Sénégal.
Oui, un tollé de la part de la coordination des associations de presse, on l'a dit, qui dénonce ce qu'elle qualifie de dérive totalitaire de l'État du Sénégal, je cite. Pour elle, c'est vraiment une question de principe. Hein. Aujourd'hui, c'est Papa Lénian, demain, ça pourrait être n'importe qui, c'est ce que disait l'un de ses responsables lundi. Cette coordination dit s'inquiéter de ce qu'elle qualifie plus généralement de diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. Elle souligne des menaces qui se sont multipliées de manière générale contre les journalistes, notamment depuis les émeutes de mars 2021. Cette affaire, elle a suscité également des réactions au niveau des organisations internationales de défense de la presse et aussi de nombreuses réactions politiques au sein de l'opposition. Ousmane Sonko, par exemple, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, hier l'actuel maire Barthélémy Diaz ou encore Aminata Touré, ancienne première ministre de Macky Sall. Ils ont tous appelé, entre autres, à la libération du journaliste et dénoncent une atteinte à la démocratie.
Et on aura certainement l'occasion d'en parler vendredi dans la Libre Antenne. Une dernière question, Mfali ?
Oui, je voudrais savoir que risque Papa Lénian.
Charlotte Hydrac ?
Alors, je vais être très courte. En théorie, donc, si on prend le code pénal, l'article 64 sur la diffusion d'une information militaire de nature justement à nuire à la défense nationale, eh bien, c'est passible d'un à cinq ans de prison. On n'en est pas là pour le moment. Vous le disiez, Papa Lénian a fait l'objet hier d'un retour de parquet. Donc, il doit de nouveau être présenté au procureur. Et puis, on suivra bien sûr la procédure.
Et on la suivra notamment avec vous, Charlotte Hydrac, correspondante permanente de RFI au Sénégal. Fali, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, vous avez répondu à mes questions. Et je dis merci beaucoup à Charlotte et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et bonne journée à vous, Aziz Guinchor. Tiens, on va rester dans Aziz Guinchor, au sud du Sénégal, avec Mamadou qui nous appelle également pour poser des questions. Soyez le bienvenu, Mamadou.
Oui, bonjour Juan et bonjour à vous, c'est Aziz Guinchor.
Vous avez des questions concernant Twitter, après le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk.
Exact. En fait, une semaine après avoir racheté Twitter, Elon Musk a licencié près de la moitié des employés. J'aimerais savoir comment justifie-t-elle cette vague de licenciements.
Oui, il a licencié effectivement à peu près 3700 personnes. Et figurez-vous que selon certains médias américains, Elon Musk a rappelé plusieurs des salariés licenciés. Bonjour Alan Wakra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Expliquez-nous pour quelles raisons Elon Musk a-t-il licencié environ la moitié des 7500 salariés de Twitter ?
Donc, il a licencié à peu près la moitié des salariés de Twitter. Après son rachat pour 44 milliards de dollars de la plateforme il y a une semaine, dans un contexte particulier qui est celui d'un ralentissement général des profits publicitaires des géants de la technologie américaine, il cherche d'abord à imprimer sa marque et puis donc il lance des ballons d'essai pour essayer de prendre la température des marchés, de pas effrayer les utilisateurs, mais d'essayer de trouver aussi un modèle économique qui évolue par rapport à la publicité, qui est le modèle essentiel du service jusqu'ici, qui rapporte jusqu'à 95% des profits.
Ouais. Mais ces coupes... Pour dire clairement les choses, Alan Wakra, pour dire clairement les choses pour que tout le monde comprenne, c'est que Twitter est déficitaire. Twitter perd de l'argent chaque jour.
En 2021, ils ont gagné le chiffre d'affaires était 5 milliards d'euros, donc c'est pas déficitaire.
Peut-être, mais Elon Musk dit le contraire, que l'entreprise perd je ne sais combien de millions par jour.
Il cherche en tout cas des moyens de rendre l'entreprise plus profitable. Il y a des questions sur ce rachat, sur la dimension idéologique aussi du rachat par Elon Musk. Et ces décisions, elles visent aussi à comprimer les coûts de production du service. Hein, s'il y a moins de gens qui travaillent, alors on peut réduire les coûts du service. C'est un peu l'idée, mais c'est une vision qui n'est pas une vision de terrain parce que il y a des employés de Twitter qui réalisent des activités essentielles comme la modération ou la sécurité. Et s'ils souhaitent lancer un modèle payant ou développer le service, alors ces ressources risquent de manquer pour ces nouvelles ambitions.
Alors justement, Mamadou, vous avez une deuxième question à nous poser.
Oui, exact. Quelles peuvent être les conséquences de cette vague massive de départ pour la prochaine?
Ouais, vous l'avez légèrement évoqué, Alan Ouakra, notamment en parlant de ce département, de ce service chargé de lutter contre la haine en ligne. Ce département a vu ses effectifs se réduire.
C'est problématique. C'est un travail essentiel des plateformes, la modération des contenus. Il y a énormément de contenus qui sont produits chaque jour et il faut pouvoir encadrer ça. Et le risque, eh bien, c'est que l'atmosphère se dégrade et c'est que ce lieu, donc ce qui faisait sa force et son intérêt, c'est la diversité des opinions, son ouverture, mais devienne un lieu relativement confiné avec une plus grande homogénéité des opinions sur la plateforme.
Oui. Et donc les conséquences, le fait de se séparer de la moitié des salariés, d'en rappeler tout de même quelques-uns le week-end dernier, est-ce que vous craignez un chaos au sein même de l'entreprise, au sein même de l'organisation de Twitter ?
Bah, surtout, ça pourrait provoquer une crise de confiance, ce qui est déjà un petit peu le cas au niveau des annonceurs qui n'ont pas la volonté de financer un service qui soit clairement marqué politiquement, beaucoup moins ouvert, et qui ferait perdre à la plateforme sa centralité dans le débat public.
Des annonceurs qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ont déjà fait savoir qu'ils se retiraient de Twitter. Mamadou, oui. A-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup Juan pour les réponses.
Eh ben, merci surtout à Alan Ouakra d'avoir pris quelques instants ce matin, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Il est 9h21 justement ici dans la capitale française. Vous nous appelez, vos questions nous intéressent et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre, de vous permettre de mieux décrypter, mieux comprendre tous les sujets que vous entendez dans nos différentes éditions. Nous avons contacté Victor Moria, correspondant de RFI au Maroc. Bonjour Victor. Allô Victor, êtes-vous là?
Oui. Ah oui, bonjour Juan, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend 5 sur 5, merci d'être avec nous Victor.
Ah, super.
On s'est permis de vous appeler car on a reçu des questions concernant les relations pour le moins tendues entre le Maroc et la France. Soyez le bienvenu Médard.
Bonjour Juan, bienvenue au pied de l'Amazon à Cotonou, il fait beau.
Hein. Il fait beau à Cotonou ce matin, bien tant mieux, profitez-en. En tout cas merci d'écouter RFI. Quelles sont vos questions? On vous écoute avec Victor Moria.
Oui, Juan, ce week-end, une délégation de parlementaires français s'est rendue au Maroc pour tenter de résoudre la crise des visas entre les deux pays qui dure depuis un an. Mm-hmm. Alors, Juan, je voudrais savoir pour quelle raison la question des visas n'a toujours pas été réglée entre ces deux pays.
Ah oui, c'est vrai que cette crise de visa empoisonne les relations entre Rabat et Paris depuis maintenant un an, depuis septembre 2021. Expliquez-nous tout, Victor Moria.
Alors, pour comprendre pourquoi cette crise elle dure aussi longtemps, il faut comprendre pourquoi elle a commencé. La réduction du nombre de visas décidée par le gouvernement français, elle est directement liée à la question de ce qu'on appelle en France les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. En clair, ce sont des avis d'expulsion à l'encontre de personnes en situation irrégulière en France. Et le problème, c'est que pour renvoyer une personne dans son pays d'origine, il faut que le pays en question accepte de la récupérer. Et c'est tout le problème. Le gouvernement français estime que le Maroc, comme la Tunisie et l'Algérie d'ailleurs, eux aussi concernés à l'époque par cette mesure, ces trois pays avaient un taux de coopération bien trop bas dans le domaine. L'année dernière, la France expliquait que le Maroc ne reprenait qu'une personne sur quatre visée par une OQTF. Et en France, le pouvoir veut absolument obtenir gain de cause puisque les OQTF, ça fait l'objet d'un vif débat dans l'actualité française, on l'a entendu, plusieurs agressions très médiatisées, dont un meurtre d'une enfant de 12 ans, ont été commis par des personnes visées par ces avis d'expulsion et ça met la pression sur les autorités françaises qui notamment dans la politique globale, notamment de la part de la droite et l'extrême droite.
Ouais, en tout cas, la situation a été résolue avec la Tunisie. Elle semble être en passe de l'être avec l'Algérie. La situation avec le Maroc, elle n'a pas bougé depuis un an.
Oui, parce qu'il y a un vrai problème de communication entre Rabat et Paris. La France veut que le Maroc reprenne ses ressortissants, mais le Maroc a un autre agenda en tête. Il concerne le Sahara occidental. Donc c'est une région dont on parle souvent sur RFI, que le Royaume considère sienne, mais qui est également revendiquée depuis 50 ans par un mouvement indépendantiste, le Front Polisario. Et ce mouvement est soutenu par l'Algérie. Et il se trouve que la France, malgré les appels répétés du Maroc depuis des années, ne soutient toujours pas franchement le plan d'autonomie pour la région proposé par Rabat. Car Paris ne veut pas froisser l'Algérie avec laquelle elle s'est beaucoup rapprochée aussi ces dernières années. Du coup, pour le Maroc, c'est si tu ne me donnes pas ce que je veux, moi, je ne fais pas ce que tu me demandes.
Ouais, Médard, vous avez une dernière question?
Oui, mais est-ce qu'il y a une solution qui est en passe d'être trouvée?
Ah, en tout cas, il y a eu cette délégation de parlementaires qui s'est rendue samedi à Rabat, dans l'objectif justement de trouver des solutions, Victor Mauria.
Alors cette délégation de parlementaires, elle appartient à ce qu'on appelle au cercle Eugène Delacroix. Enfin, la visite a été organisée par ce qu'on appelle le cercle Eugène Delacroix, qui est un groupe de réflexion qui met en lien des élus marocains. Donc ce travail, il continue, hein, quelles que soient les relations diplomatiques entre les deux pays. Mais de manière officielle, de manière bilatérale, il y a eu des mois de silence. On a quand même appris, hein, la semaine dernière, qu'un coup de téléphone avait eu lieu entre le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron. Alors, c'est un appel en signe de reprise de contact, doucement, après des mois sans dialogue, mais aussi, surtout, pour préparer une visite du président français à Rabat. Et tout ça pourrait donc être les prémices d'une sortie de crise. Mais avant, il y a quand même beaucoup de travail, puisque ces derniers mois ont fait beaucoup de dégâts sur le plan diplomatique. La France doit, par exemple, nommer depuis des semaines un nouvel ambassadeur à Rabat, après le départ d'Hélène Le Gall, qui était fin septembre. Et le Maroc vient de nommer son ambassadeur à Paris, à un poste très prestigieux à Rabat, puisqu'il s'agit de gérer le fonds Mohamed VI, qui est le fonds qui va décider des prochaines années sur le plan économique au Maroc. Et donc, ça laisse planer le doute quant à son avenir en France, alors qu'il n'y est arrivé qu'à peine un an. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à discuter entre les deux pays avant de pouvoir reprendre des relations dites normales.
Oui, en tout cas, la visite du président Macron au Maroc est prévue d'ici le début de l'année prochaine, dit-on. Merci beaucoup, Victor Mauria, d'avoir été avec nous, correspondant de RFI à Rabat. Médard, bonne journée à Cotonou.
Oui, Juan. Merci, Juan.
Et merci de nous avoir appelés. Tiens, je suis ravi d'accueillir Marius, pour qui c'est une grande première ce matin. C'est la première fois qu'il appelle et qu'il passe sur l'antenne de RFI. Soyez le bienvenu, Marius.
Bonjour.
Bonjour. À Ouagadougou, Burkina Faso.
C'est exact.
C'est exact. Vous avez des questions concernant l'exclusion de votre pays, de l'AGOA?
Moi, je sais que je suis ivoirien. Je suis ici dans le cadre de mes études.
Ah d'accord, très bien. Étudiant ivoirien au Burkina Faso. Quelle est votre question, Marius?
Voilà, le mercredi passé, les États-Unis ont décidé d'exclure le Burkina Faso de l'accord commercial AGOA.
Oui.
Donc, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences de ce retrait.
Les conséquences de ce retrait pour le Burkina Faso. Le réseau de téléphone n'est pas très bon, Marius. En tout cas, la question est intéressante, évidemment. Exclusion du Burkina Faso qui sera effective le 1er janvier, hein, pour être très précis. Bonjour, Ousseini Eli.
Oui, bonjour, monsieur Juan.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara. On rappelle l'objectif de l'AGOA, programme américain lancé il y a maintenant 20 ans, un programme qui vise à faciliter les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Les pays qui bénéficient de ce programme bénéficient en fait d'une réduction de taxes sur certains produits qu'ils peuvent exporter vers les États-Unis. Concrètement, l'exclusion de l'AGOA, quelles seront les conséquences économiques pour le Burkina Faso?
Alors, merci beaucoup. Pour ajouter un peu sur l'AGOA, il faut dire que c'est effectivement cette loi qui a été adoptée par les États-Unis en 2000 qui vise à faciliter les exportations africaines vers les États-Unis. Et en réalité, c'est une élimination des droits de douane. Ce n'est même pas une réduction puisque les produits éligibles peuvent être envoyés aux États-Unis hors douane, c'est-à-dire à zéro tarif. Concrètement, les conséquences, c'est que lorsqu'un pays est exclu, ces produits ne peuvent plus entrer aux États-Unis hors douane.
Ouais. Donc, mais est-ce que c'est un coup dur pour le Burkina Faso, Ousseini Eli?
De manière globale, ce n'est pas un coup dur parce que quand vous regardez les échanges, les exportations burkinabées vers les États-Unis ne sont pas si énormes que cela. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous prenez les exportations qui bénéficient, c'est-à-dire les produits qui bénéficient de l'AGOA concrètement, c'est encore minime. Mmh. On estime autour de 1 milliard, en tout cas les produits qui vont sous AGOA aux États-Unis, autour d'un milliard de francs CFA par an. Donc ce n'est pas extraordinaire, mais il faut dire qu'il y a des entreprises qui ont une bonne partie de leur production qui bénéficient de ces avantages-là, notamment celles qui évoluent dans le domaine des noix de cajou, des mangues séchées
Et donc, finalement, ces entreprises vont être individuellement impactées. Mais de façon globale, ce n'est pas très important.
Donc, c'est une mesure plutôt symbolique, plutôt une mesure politique, hein, puisque c'est Joe Biden qui a pris cette décision. Il l'a justifiée, dit-il, par l'absence de progrès démocratique dans le pays. En tout cas, réponse simple. On a bien compris Ousseini Ili. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de l'Université Thomas Sankara.